par le Saint-Esprit, dans la pensée et dans la volonté de Dieu, va faire du bien à nos âmes, puisque le Maître Jésus, notre Seigneur, s'il est celui qui un jour est venu sur la terre, envoyé par le Père Céleste, pour accomplir cette œuvre grande et glorieuse de rédemption, dans laquelle Dieu nous a accordé le pardon de nos péchés en vertu de la repentance, qui a été suivie de la conversion. Repentance et conversion qui ont été le tremplin pour nous amener à l'expérience de la nouvelle naissance, nous introduisant ainsi dans ce plan béni préparé par le Père depuis les temps anciens, révélé par l'Écriture au travers de la déclaration de l'apôtre aux Éphésiens, qui va le conduire en quelque sorte à louer Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et puis, conduit par le Saint-Esprit, nous le voyons, qui, avec l'expression en lui, va se livrer à ce qui ressemblerait fortement à ces bénédictions spirituelles précitées, mais exposées de manière décortiquée, en lui, en lui, en lui et en lui. À chaque fois, l'expression « en lui » est destiné à nous montrer ce que nous n'étions pas avant, mais que nous sommes devenus. Alléluia. Et puis, dans la liste qu'il expose, la première chose dont il fait mention, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a non seulement élus, mais il nous a surtout adoptés. Il nous a adoptés en Jésus-Christ pour faire de nous ses enfants. Et puis, il va mentionner selon le bon plaisir de sa volonté. Il mentionnera aussi avec le bon plaisir de sa volonté le mystère de sa volonté et il va accompagner le bon plaisir de la volonté du Père et le mystère de sa volonté par le conseil de sa volonté. Donc cela veut dire, frères et sœurs en Christ, que si nous sommes là ce matin, non seulement Dieu nous a connus avant la fondation du monde, il nous a élus, nous sommes sur le terrain de la préscience qui a mené la prédestination, la destination qui a mené l'élection, l'élection qui a été suivie de la révélation et nous introduisant ainsi dans ce plan béni d'adoption. Ce matin, certes, le plan humain, nous venons de papa et de maman, c'est logique, nous sommes des êtres humains, donc nous avons une origine. Mais sur le plan divin, Dieu nous a engendrés en Jésus-Christ. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, dit l'apôtre Jean, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné, quoi ? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et par la même occasion, dans la même direction, étant devenu enfant de Dieu, je suis en même temps devenu héritier de Dieu. Car si je suis enfant, je suis héritier. Et si je suis héritier de Dieu, dites avec moi, je suis co-héritier avec Jésus-Christ. Donc ça veut dire que frères et sœurs en Christ, ce matin, quand nous entrons dans ces réalités spirituelles, divine, grande et glorieuse, nous n'aurions que des raisons de nous réjouir. Mais ça, c'est l'aspect divin, spirituel. Mais on ne vit pas que de spirituel, nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Et sur le plan humain, nous avons des combats à mener, des obstacles. devant toutes sortes de situations auxquelles nous sommes confrontés comme enfants de Dieu. Mais l'apôtre dit, béni soit Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Et même si dans certains aspects à considérer, certains pourraient dire, pour moi je ne triomphe pas toujours, certes, cette réflexion-là viendrait de ta nature humaine. C'est l'humain, ce qui est humain. Ce qui est humain en nous, nous amène toujours au constat de notre faiblesse, de nos manquements, des difficultés rencontrées. Et même quelqu'un avant nous a fait un constat de misère. Il a dit, misérable que je suis. Parce qu'il faisait, parce que Dieu avait, lui avait ouvert l'intelligence, le rapprochement entre ce qu'il était dans la chair, ce qui en découlait, et puis c'est lorsqu'il prend la réalité spirituelle, le fil conducteur qui va l'amener vers les hauteurs, il va partir de la base de la pyramide pour arriver jusqu'au sommet de la pyramide. Et lorsqu'il arrive au sommet de la pyramide, nous sommes sur le terrain de Romains, le chapitre 8, verset 1er. La déclaration est pour lui comme pour nous ce matin. Il n'y a donc maintenant, quoi ? Plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Affranchi. Donc, à cause de cela, mes bien-aimés, on ne peut dissocier ce que l'apôtre dit du plan béni de Dieu qui a mis en évidence sa volonté. Parce que l'apôtre va mentionner après cela que tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. Alors, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Pourquoi ? Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui croyons, qui avons la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire ce que moi je n'aurais jamais pu faire. J'en étais incapable, totalement incapable et impuissant. Dieu l'a accompli en Jésus. Et désormais, par la foi, je me fais rentrer dans des réalités d'une œuvre déjà accomplie et il m'en fait tirer les bénéfices par l'action du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, frères et sœurs en Christ, ce matin. J'espère que je ne vous parle pas un langage inapproprié. Je vous dis ce qui est biblique. Gloire à Dieu, mes frères et mes sœurs. Vous savez, quelqu'un m'a fait la remarque il y a quelque temps, disant, pasteur gentil, quand vous prêchez, vous employez des mots qui sont quelquefois au-dessus des compétences de certains enfants de Dieu. Mais justement, le Saint-Esprit ne peut pas toujours nous faire rester dans les bases, il peut nous amener vers les hauteurs. Gloire à Dieu. Alors, si j'étais au cours préparatoire, après, il avait fallu que je puisse passer au cours élémentaire, hein, et après au cours élémentaire, je passe en primaire. Cours moyen, c'est ça? Non, il n'y a pas que moyen toi. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que Dieu nous prend à la base et puis il commence à nous enseigner. Et en nous enseignant, en même temps, il nous éduque. En nous éduquant, il nous forme, il nous façonne et il nous donne la capacité d'acquérir, de comprendre, de saisir, d'évoluer. C'est ça. L'école de Dieu. Ce que j'étais il y a 20 ans, je ne le suis plus aujourd'hui. Ce que Dieu m'a donné à grandir avec lui dans l'expérience, dans la connaissance. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est un peu le but et le dessein du Père pour chacun d'entre nous, que son nom soit béni ce matin. Frères et sœurs en Christ, vous savez, vous rappelez la dernière fois que nous avons eu un moment de jeûne et de prière. Qui me dira quel a été le thème et le partage de la méditation que nous avons eu? C'était le 16 décembre 2023. Allez-y. Travaillez un peu la mémoire, là. Allez, je vois que beaucoup de candidats de notre sourds. Vous avez raison, béni soit Dieu. La sagesse. Ce n'est pas la sagesse. L'humilité, ce n'est pas l'humilité. Allez-y, allez-y, allez-y. La bonté, ce n'est pas la bonté. Ah, l'unité, ça commence à venir. Le thème de la méditation que nous avons eu le 16 décembre, c'était l'importance de l'unité dans l'Église. Vous vous rappelez? Voilà, donc ce matin, nous allons considérer un autre volet aussi important, non seulement dans l'Église, mais dans la vie de chacun d'entre nous comme enfant de Dieu. Puisque j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait que je puisse partager avec son peuple, ses enfants que nous sommes, et le Saint-Esprit m'a conduit en me disant simplement de regarder à Jésus. Tiens, oui, c'est bien. Si le Saint-Esprit me dit de regarder à Jésus, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de ce regard. Alors, nous allons regarder Jésus ensemble ce matin. Voulez-vous regarder Jésus avec moi? Alors, trouvons Jésus et regardons-le en regardant justement le texte de l'évangile de Matthieu où nous voyons Jésus au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Et arrêtons-nous sur Jésus, le regardant dans Matthieu chapitre 5, verset 1er. Vous êtes prêts? Bien. Alors, il nous est dit ceci. Voyant la foule, Jésus, lisez, monta sur la montagne. Point virgule. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons Jésus, comme cela nous est montré, qui voit la foule. Et fort souvent, vous le savez comme moi, que dans les Écritures, lorsque Jésus était dans son ministère, il y avait souvent une grande foule qui suivait Jésus. Parce qu'il voyait avec étonnement les miracles que Dieu accomplissait au travers de lui, que Jésus opérait. Et en même temps, le Saint-Esprit exerçait une attraction pour amener les âmes afin qu'ils écoutent l'enseignement de Jésus. Mais là, la Bible nous dit que Jésus a vu la foule et il est monté sur la montagne, puis s'étant assis, il n'a pas enseigné la foule, mais il a enseigné ses disciples. Donc, la montagne où Jésus s'est retrouvé en enseignant son peuple, était un lieu particulier, un lieu prépondérant, où, dans la présence du Père, loin du bruit, loin de l'agitation, loin de la foule, Jésus enseignait ses disciples. Puis, si nous regardons, frères et sœurs en Christ, toujours Jésus, par exemple dans l'évangile de Marc, au chapitre 6 et au verset 45 et 46, donc Jésus monte sur la montagne, et là nous voyons une autre pensée dans Marc 6, verset 45. C'est le récit qui nous est rapporté suite à la multiplication des pains. La Bible nous dit ceci, aussitôt, après quoi? Après la multiplication des pains, comme je viens de vous le dire, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda. Pendant que lui renverrait la foule. Verset 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla où? Sur la montagne pour? Il s'en alla sur la montagne pour prier. Tout à l'heure, nous avons vu la première parole que Jésus montait sur la montagne, s'assit pour enseigner. Mais là, c'est un autre contexte qui fait que Jésus monte sur la montagne et la Bible nous dit que Jésus va prier. Vous avez renvoyé la foule. Puis, la suite du récit nous montre que Jésus va, alors que le soir était venu, la barque était déjà au milieu de la mer, Jésus était resté seul à terre. Mais la Bible nous dit que Jésus va rejoindre ses disciples, comment? En marchant sur la mer. Donc nous comprenons, frères et sœurs en Christ, avec le « aussitôt » qui suit la multiplication des pains, la direction de Jésus qui va monter sur la montagne pour prier, puis l'action de Jésus qui va marcher sur les eaux pour rejoindre les disciples, il est en plein dans ce que le Père lui a révélé. Gloire à Dieu. Parce que d'ordinaire, une fois que Jésus a donné des directives à ses disciples, ils obéissent, ils font ce que le maître a dit. Mais là, nous voyons qu'après la multiplication des pains, aussitôt, Jésus les a obligés. D'ordinaire, Jésus n'oblige pas. Il dit simplement et ils obéissent. Mais là, il les oblige. Pourquoi? Eh bien, on peut comprendre, puisque Dieu nous rend intelligents, que le lieu de la multiplication des pains était un lieu stratégique pour les disciples de Jésus qui étaient attachés. C'est la première fois que Jésus multipliait les pains, n'est-ce pas? Ils étaient bien là, la grande foule était nourrie, Dieu avait glorifié son nom, et quelquefois nous aimons bien être dans le lieu où Dieu glorifie son nom. Dans l'Ancien Testament, il y a un lieu stratégique, je crois, c'était Bethel, je crois, qui est devenu dans la suite des temps un lieu d'idolâtrie. C'est ça, hein? Donc, on est quelquefois attaché au lieu. Certes, Dieu a fait le travail, mais nous, on est attaché au lieu. Alors, aussitôt, tu ne les obliges. Ça veut dire que c'est comme si Dieu voulait, en quelque sorte, excusez-moi du terme, Dieu voulait battre le fer pendant qu'il était chaud. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous soyons attachés de manière particulière à un lieu stratégique où il a fait une œuvre. Mais il veut que nous soyons attachés, non pas à ce que nous voyons, mais à ce qu'il est. Gloire à Dieu. Donc aussitôt, Jésus va monter sur la montagne pour prier. Puis la Bible nous donne la suite que nous venons de partager. Dans Marc 9 au verset 2. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart, où? Sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et la suite du récit nous dit que les vêtements de Jésus deviennent d'une blancheur particulière. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, la gloire du ciel est descendue sur Jésus devant les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Et puis, ils ont été tellement stupéfaits par cette gloire, puisque après, la gloire de Dieu qui est descendue sur Jésus, plus tard, va Moïse et Élie qui vont parler à Jésus en discutant avec lui sur son prochain départ qui aura lieu à Jérusalem. Donc ça veut dire, frères et sœurs en Christ, que non seulement Jésus est monté sur la montagne pour s'asseoir et enseigner, il est monté sur la montagne, nous l'avons vu, pour prier le Père, et là nous le voyons sur la montagne de la Transfiguration où il va vivre une expérience particulière qui nous est montrée aussi en regardant l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 28. Dans Luc 9, 28, nous découvrons Luc 9, verset 28. Le même récit, hein, mais une petite variante importante. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour... Ah, gloire à Dieu! Il est monté sur la montagne pour prier. Et c'est à cette occasion, verset 29, pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Deuxièmement, son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et troisièmement, et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Vous avez compris que Moïse représente la loi. Moïse représente la loi. Et puis Élie représente les prophètes. Donc la loi et les prophètes vont s'accomplir dans l'œuvre accomplie par Jésus ou à la croix du Calvaire à Jérusalem. Gloire à Dieu. Puis, frères et sœurs en Christ, pour aller plus loin dans la pensée, nous voyons que en montant sur la montagne pour prier, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des disciples de Jésus et des apôtres, vont vivre avec le Seigneur un instant particulier. C'est la seule fois dans les Saintes Écritures où Jésus a vécu cette expérience de la transfiguration. Et ce qui est à, non pas déplorer, puisque peut-être que si j'étais à leur place, cela me serait arrivé aussi. La seule fois où Jésus a été transfiguré et qu'il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, ils ont failli louper ça. C'est un apesanti. Ils se réveillaient, c'est lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont vu la gloire de Dieu sur Jésus. Vous savez, des frères et sœurs en Christ, dans la vie chrétienne, il y a des moments où lorsque Dieu veut nous amener à vivre avec lui sur la montagne, des instants particuliers, il y a le risque, si nous ne veillons pas, le sommeil de la fatigue spirituelle peut rapidement nous gagner ou subvenir et nous empêcher de vivre l'expérience comme Dieu voudrait qu'elle soit vécue. Donc on a regardé d'abord Jésus. Puis, si on a regardé Jésus, où ? Dites-le s'il vous plaît, sur la montagne. Nous avons regardé Jésus sur la montagne. Mais dans l'Ancien Testament, pour aller plus loin dans la pensée de Dieu, nous allons voir comment dans le livre de l'Exode, au chapitre 24, un homme aussi, dans le plan de Dieu, dans le temps de Dieu, va lui aussi recevoir une direction. Et cette direction prend son effet dans le livre de l'Exode, chapitre 24, et au verset 12. « Exode 24, verset 12, nous lisons, « L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi, où ? Sur la montagne. Monte vers moi sur la montagne. Et lorsque nous lisons ça, frères et sœurs en Christ, nous comprenons que derrière ce que Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, il y a ce qui nécessite obligatoirement, avec la direction de Dieu, l'obéissance requise. Vous êtes toujours d'accord? Dieu lui a dit, monte vers moi sur la montagne. Donc, avec une telle déclaration, Moïse ne peut qu'obéir. Moïse n'a pas tergiversé, Moïse n'a pas raisonné, Moïse a obéi. Donc, ce qui nécessite une obéissance requise, et cette obéissance requise est obligatoire puisqu'il y a une direction divine qui a été donnée. Puis aussitôt, verset 13, nous lisons, lisez, Moïse se leva avec Josué. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta en obéissance. Direction donnée, obéissance requise, le verset 13 nous le montre. Vous êtes toujours OK? Bien. Savez-vous, frères et sœurs en Christ, que aujourd'hui, en notre qualité d'enfant de Dieu, nous avons un beaucoup plus grand privilège que ce que nous venons de lire. Ce n'est pas la peine d'ouvrir des grands yeux. Ce n'est pas la peine d'ouvrir des grands yeux. Aujourd'hui, nous avons un beaucoup plus grand privilège que ce que nous venons de lire là. La direction que Dieu a donnée à Moïse, qui a nécessité l'obéissance requise. Alors, je vous pose la question. Quel est ce privilège plus grand que nous avons ce matin? Allez, on est ensemble. On est dans la présence de Jésus, c'est pas la peine de... On est ensemble. Alors, dites-moi. Ah, ben voilà, la sœur dit, on a une libre entrée, et le royaume de Dieu est en nous, enfin, vous êtes dans le vrai. Nous avons un beaucoup plus grand privilège que ce que nous venons de lire. Dieu a dit à Moïse, monte. Mais nous n'avons pas besoin de monter. Puisque nous sommes déjà dedans. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, frères et sœurs en Christ, que lorsque Dieu nous montre notre position en Christ et ce qui en découle, on arrête de se casser la tête. On arrête de se faire justement du mouron. Enfin, excuse-moi le mot mouron, mais. Parce que nous avons un tel privilège qui accompagne notre raison d'enfant de Dieu. Et quelquefois, nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle les choses, qu'il éclaire notre esprit. Bon, pour rien vous cacher. Pour rien vous cacher. Ce matin, je suis chez moi, je me prépare. Mais le Saint-Esprit n'arrête pas de remplir mon cœur de joie. Je chante. Peut-être que quelquefois, bon, mais je chante un peu trop fort, mon épouse me dit. Mais écoutez, mes bien-aimés, quand vous êtes dans la présence de Jésus, que le Seigneur vous fait vivre intensément les choses spirituelles, on ne peut que le bénir ce matin. Nous avons plus grand privilège que ce que nous venons de dire. Mais allons plus loin. Dans Genèse 22, Vous connaissez cette expérience qu'a faite Abraham après que Dieu lui demandait l'effet d'une promesse qu'il avait reçue. Et après qu'il eut obéi justement en mettant Isaac sur l'autel, etc., vous connaissez comment le déroulement de la pensée. Après que Abraham eut levé le couteau pour égorger le fils pour obéir à Dieu, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Il lui dit, Abraham, Abraham, arrête. Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas hésité à me donner ton fils, ton unique. Dieu interviendra par un serment. Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je te bénirai, mais aussi je bénirai ta postérité. La Bible nous dit, plus tard dans l'Épître aux Hébreux, le Saint-Esprit reprend cette pensée et va nous rappeler que Dieu ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, Dieu a juré parce qu'il ne pouvait pas jurer par un plus grand, il a juré par lui-même. Dieu est intervenu par un serment. En intervenant par ce serment, il a voulu montrer en quelque sorte l'immuabilité de la résolution qu'il avait prise. Il avait dit que désormais, personne ne pourra ni bouger ni changer ce que moi j'ai décidé. Je te bénirai, Abraham. Je bénirai aussi ta descendance, ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies au travers de ta postérité. Et c'est dans ce cadre-là que nous retrouvons, frères et sœurs en Christ, Genèse 22, verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui. Et si, frères et sœurs en Christ, cette parole a été écrite il y a des siècles, mais c'est aujourd'hui que nous lisons, mais c'est maintenant. Aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas besoin, comme Moïse, de monter sur la montagne, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Alors, puisque je suis membre du royaume de Dieu, je suis enfant de Dieu. Je suis citoyen des cieux. Je suis gens de la maison de Dieu. Je suis membre du corps de Christ. Alors il n'y a pas de raison que je ne sois pas au bénéfice de la bénédiction de Dieu pour moi. Aujourd'hui, il a pourvu. C'est-à-dire en me donnant Jésus, Dieu a pourvu une fois pour toutes. Désormais, la bénédiction coule pour moi du ciel, passe par Jésus et le Saint-Esprit le répand sur ma vie. Gloire à Dieu, frères et sœurs en Christ. Allons plus loin. Donc, si nous regardons toujours dans la même direction, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 7, une question est posée. Zacharie 4 au verset 7. Qui es-tu? Quoi? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce! Grâce pour elle! Rappelez-vous quand Jésus est entré à Jérusalem, faisant son entrée triomphale dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles, monté sur un ânon petit d'une ânesse. Et lorsque la foule a commencé à acclamer Jésus, qu'est-ce que la foule s'est mise à crier? On l'a chanté tout à l'heure. Hosanna! au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et savez-vous, frères et sœurs en Christ, dans le sens symbolique de ce mot « Hosanna », sauve de grâce. Sauve de grâce. Mais ça veut dire que la grâce de Dieu, lorsque Jésus est entré à Jérusalem, au travers de cette entrée triomphale, certes, comme je viens ou que j'aimais le dire, la foule acclamait Jésus. Mais la même foule qui acclamait Jésus, parmi cette foule, plus tard, certains vont se mettre à crier, crucifie, crucifie. Mais ce n'est pas parce que la foule qui acclamait et qui allait plus tard crier « crucifie, crucifie » qui empêchait l'œuvre de Dieu de s'accomplir au travers de son Fils. Parce que Dieu pensait non seulement à ceux de cette génération-là, mais surtout à nous qui sommes devenus ses enfants lorsque les temps étaient accomplis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Puis, dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 20, toujours en accord avec le privilège qui est le nôtre, plus grand que celui que nous avons lu concernant Moïse dans l'Exode. Dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 20, deux lectures vont nous le montrer et nous allons pouvoir continuer dans la pensée. Alors, Évangile de Luc, chapitre 17, verset 20. Ça y est, vous êtes prêts? Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait, quoi? Le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas un lieu stratégique, particulier, mais le Seigneur va leur expliquer et leur montrer. On ne dira point « il est ici » ou « il est là ». La raison ? Car le royaume de Dieu est au milieu. Jésus voulait leur montrer que par ma présence au milieu de vous en Israël, le royaume de Dieu est venu par moi. Je suis le garant du royaume de Dieu. Et je suis le garant du royaume de Dieu dont je suis le roi. Mais s'il y a un royaume, il y a bien un roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. Et si nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, nous avons Jésus pour roi. Et en considérant le royaume et le roi, nous sommes les princes et en quelque sorte nous serions les sujets de sa majesté. Vous connaissez qu'il y a tout un protocole. Si vous allez en Angleterre, que vous demandez à voir la reine ou le roi, il faut que vous respectiez toute une série de choses établies qu'on appelle le protocole. Et même si vous n'êtes pas habitué, ben vous êtes obligé de vous y soumettre parce que c'est ce qui est établi dans la royauté. Et bien dans le royaume de Dieu, frères et sœurs en Christ, tout à l'heure j'écoutais une sœur qui disait que le plus grand, que nous devrions aussi honorer les petits. Dans le royaume de Dieu, le plus petit est considéré. Amen. Jésus a dit concernant Jean-Baptiste, lorsqu'il est dans un moment de doute particulier, qu'êtes-vous allé voir au désert? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux, voici ceux qui portent des habits précieux, ils sont dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, un prophète, mais plus qu'un prophète. C'est celui dont j'ai dit, j'envoie mon messager devant toi pour préparer le chemin. Le Seigneur va prendre un temps d'expliquer une particularité qui ne concerne pas nécessairement seulement Jean-Baptiste, mais qui nous concerne nous. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Comprenons que les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé de Jésus. avait prophétisé sur lui. Mais Jean-Baptiste a été le seul prophète à montrer celui dont on avait prophétisé. Le voilà. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel privilège. Et comme cela nous a été rappelé dimanche matin, malgré tout, dans la prison, celui qui a vu les signes qui lui avaient été donnés de manière merveilleuse, quand Jésus est allé vers lui pour se faire baptiser, qui s'est opposé, Jésus lui a dit, laisse faire maintenant, parce qu'il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne s'est plus opposé. Parce que Jésus savait qu'il avait reçu une promesse de la part du Père, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre et s'arrêter comme une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais cela devait se faire dans un temps particulier, c'était le maintenant, où Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, le ciel va s'ouvrir, le Saint-Esprit va descendre sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe, et puis le Père va parler des cieux. Gloire à Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire à Dieu. Donc, nous avons lu Luc 17, 20, c'est ça? Bien. Alors, voulez-vous que nous lisions Luc 10, verset 9? Luc 10, verset 9, toujours en rapport avec le privilège qui est le nôtre ce matin, différemment de ce que Dieu a dit à Moïse, monte vers moi. Regardez, Luc 10, au verset 9. Même verset 8. Dans quelle ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Or, si le royaume de Dieu s'approche de vous, c'est simplement parce que Dieu vous appelle à y entrer. Et frères et sœurs en Christ, lorsqu'on est entré dans un royaume, mais dans le royaume, il y a des règles, il y a des ordonnances, il y a des lois qui régissent le royaume. Et le Saint-Esprit ne peut vous amener qu'à adhérer puisque vous y êtes entré. Et bien c'est tout ce que Dieu fait dans nos cœurs et dans nos vies. Une fois que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, devenus membres de ce royaume, le Saint-Esprit va travailler à partir de ce qu'il va déposer en nous. Premièrement, la puissance d'une vie impérissable. C'est-à-dire tout ce qui se vit dans le royaume de Dieu, dans le ciel, le Saint-Esprit le dépose en nous déjà, dans l'homme nouveau. C'est ce qu'on appelle les arts de l'Esprit. Et à partir du moment que les arts de l'Esprit sont dans nos cœurs, Dieu va œuvrer pour changer nos affections. Nos affections iront d'abord vers les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Si véritablement, Colossiens 3, 1, vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, alléluia, là où Christ est assis à la droite du Père. La raison? Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et je comprends pourquoi mon Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous qui connaissez la prière du sacerdoce, que Jésus va adresser au Père dans l'évangile de Jean chapitre 17, nous voyons que le Seigneur va mettre en évidence 5 aspects de ce qui correspondrait en quelque sorte au bilan de son ministère qu'il expose au Père avant de partir vers le ciel. Gloire à Dieu. Je t'ai glorifié sur la terre. j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Je leur ai donné ta parole. Ils ont cru que je suis sorti de toi. Et puis la cinquième requête, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Frères et sœurs en Christ, qui sait? Vous voyez bien que dans ce bilan, chacune de nos vies sont associées et consignées avec le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés, je crois que lorsque l'apôtre s'adresse aux Galates et qu'il leur dit Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Galates, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de la servitude. Frères et sœurs en Christ, quand vous avez vécu l'affranchissement que donne Jésus-Christ, que vous usez de cette liberté, vous savez ce que fait le Saint-Esprit? Il vous place dans la position de la sentinelle. Mais au lieu de veiller sur la vie des autres, il va vous donner à veiller sur votre propre vie. Veille sur toi-même, dit l'apôtre à Timothée, et à ton enseignement. Car en agissant de la sorte, tu te sauveras toi-même, mais tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Je m'étonne, dirait l'apôtre, que vous acceptiez si facilement d'aller vers un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais celui qui vous trouble, il en paiera les conséquences. Vous savez, dans les églises, frères et sœurs en Christ, j'en ai déjà parlé il y a peu de temps, il y a des personnes que nous recevons, mais qui viennent d'ailleurs avec certaines doctrines qui n'ont rien avec les Saintes Écritures. Et malheureusement, que veut-il faire au milieu de nous? Ils veulent les porter. Ils veulent les propager. Mais écoutez mes amis, moi je n'ai pas besoin de faire d'années de théologie. J'écoute simplement quelqu'un parler et je passe tout de suite ce qui est dit au tamis des Saintes Écritures et le Saint-Esprit va maintenant faire le tri. Rapidement. Écoutez, je suis désolé, mais je suis conduit à en parler dans la présence de mon maître Jésus-Christ. Dernièrement, il y a un frère qui me dit, voilà, il y a une jeune femme qui prétend avoir vu Jésus trois fois. S'il vous plaît, ne commencez pas à réagir. Écoutez simplement. Et elle maintient qu'elle a vu Jésus trois fois. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est arrivée au milieu de nous, et puis elle dit qu'elle a vu Jésus trois fois. Et ce qui est pire, c'est qu'elle essaie d'influencer certains enfants de Dieu avec cette déclaration, « J'ai vu Jésus trois fois. » Comment je regarde les Saintes Écritures? J'ai vu qu'un homme a vu Jésus, il a été ravi au troisième ciel. Mais que l'expérience était si glorieuse, qui ne sait si c'est dans son corps ou hors de son corps. Cela veut dire que lorsque on prétend avoir vu Jésus, notre vie tout entière est transformée. Et la première chose qu'on fait, vous savez, lorsqu'on prétend avoir vu Jésus, ou lorsqu'on a vu Jésus, la première chose qu'on fait, on se tait. Alors, je crains que malheureusement, cette soi-disant avoir vu Jésus trois fois, ça se passe là. Frères et sœurs en Christ, quand quelqu'un se permet des choses similaires, et que même quand vous lui dites d'arrêter avec ça, mais non, c'est vous qui êtes hors sujet, vous n'êtes pas dans le coup. Mais bien aimé, cette assemblée, c'est Jésus qui l'a bâti, je vous l'ai dit, hein. Et lorsque nous, comme les responsables avec mes frères anciens, nous faisons un travail de construction de l'œuvre de Dieu d'après ce que le Saint-Esprit nous donne comme directive, si quelqu'un veut venir avec ce qui est étranger, laissez-moi vous dire que rapidement, eh bien, il va nous avoir sur le dos. Parce qu'on ne joue pas avec les âmes que Jésus a gagnées. Et on ne les trouble pas avec les pensées qui, soi-disant, viendraient on ne sait où. Non, une âme est trop précieuse aux yeux du Seigneur. Et si le Seigneur a permis, dans sa grâce, que nous soyons les responsables, il sait ce qu'il fait. Vous permettez que je referme la parenthèse? Voilà. Et nous revenons à notre méditation. Donc, on a vu que nous avions plus grand privilège que ne possédait Moïse quand Dieu lui a dit, monte vers moi sur la montagne. Donc, vous avez compris que derrière ces lectures que nous venons de faire, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est ce qu'il a été dit suite au fait qu'Abraham ait obéi. Montagne de l'Éternel, qui n'était pas autre chose qu'une représentation future du royaume de Dieu où Jésus, celui que Dieu a donné, où il a été pourvu, puisque plus tard Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Isaac avait dit, mon père, voici le feu, voici le bois, où est l'agneau? Le père a répondu, mon fils, Dieu se pourvoira. 800 ans plus tard, Jean-Baptiste dit, le voilà l'agneau de Dieu. Oh, Abraham a vu un bélier retenu par les cornes dans le buisson. Mais si c'est un bélier qui a été montré, le bélier n'est pas autre chose qu'un agneau mâle qui a grandi, qui est devenu adulte. Mais les Saintes Écritures, dans le Nouveau Testament, nous montrent Jésus, l'agneau de Dieu. Dans l'Apocalypse, il est montré aussi un agneau qui était là comme immolé. Agneau, pour mettre en évidence trois traits de caractère qui étaient en Jésus. Agneau pour montrer premièrement l'innocence. Agneau pour montrer deuxièmement la faiblesse. Il apparut comme une faible plante. Agneau pour montrer troisièmement la douceur. Vous êtes toujours avec moi? Gloire à Dieu. Donc, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Nous y sommes entrés. Et puis, Zorobabel, qui es-tu? Zorobabel, devant cette grande montagne, tu seras aplani. Et puis, maintenant, nous allons revenir à l'Exode pour considérer la suite et le développement de l'expérience qu'a faite Moïse suite à la directive donnée par Dieu. Donc, Dieu lui a donné une direction, obéissance requise, on l'a vu. Et puis, pour continuer, nous allons maintenant regarder toujours dans le verset 12, Exode 24, bien sûr, Exode 24, nous étions bien dans Exode 24 tout à l'heure. Exode 24, verset 12. On y va? L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Donc, nous avons fait un petit peu le tour de la première pensée. Mais aussitôt après, hein, il est dit, monte vers moi sur la montagne. Donc, il fallait monter sur la montagne. Mais deuxièmement, après, Dieu lui a dit, et reste là. Il avait dit, il faut monter sur la montagne, mais après, il faut rester sur la montagne. Gloire à Dieu. Monte sur la montagne, mais reste là. Reste là, près de moi. Mais derrière l'expression « reste là », Dieu, je crois, veut que nous puissions saisir si nous sommes entrés dans le royaume, s'il y a un temps particulier où nous devons monter sur les hauteurs pour prier, mais il y a aussi le temps où derrière ce reste-là, Dieu nous met tout de suite dans la réalité du temps. Il y a le temps. Et savez-vous que, frères et sœurs en Christ, le rapport de Dieu avec le temps n'est pas le même pour nous. Dans notre rapport avec le temps, vous allez certainement me comprendre, hein, Il y a des moments où nous voulions que tout arrive très vite. À peine est-on demandé, c'est comme si on a appuyé sur un bouton et puis hop, faut que ça arrive tout de suite. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne en tant que notre Père. Et ce, même si nous sommes entrés dans le royaume. Si nous y sommes, et nous y sommes ce matin. Mais Dieu a dit, reste là. Ça veut dire que Dieu nous va nous amener sur le terrain ou dans nos rapports avec le temps. Eh bien, il va nous amener aussi à considérer deux choses qui vont découler de promesses. Le premier, cela s'appelle l'attente. Et avec l'attente, la patience. Pourquoi Dieu lui dit, reste là? Eh bien, c'est pas autre chose que la suite. Reste là. Et sitôt Dieu lui dit quoi? Lisez. Je te... Comment appelez-vous ça? Une pro? Est-ce que vous êtes là ce matin? Monte. Reste là. Et après, je te donnerai. C'est pour nous montrer ce matin que frère, notre présence ici, le temps que nous avons mis à part pour chercher la face de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit que certains sont venus avec des prières particulières, d'autres avec le désir de louer, d'autres avec le désir de glorifier Dieu. D'autres sont venus avec un esprit de supplication, parce que le besoin de l'un n'est pas le besoin de l'autre. Dieu connaît chaque cœur ce matin. Mais si nous sommes dans son plan, dans son royaume, si nous venons le chercher spécialement ce matin par la prière, il te dit, reste là. Donc, il veut te mettre aussi dans la réalité du temps qui est le tien, mais qui n'est pas nécessairement le sien. Il te plonge dans la patience. Il y a l'attente, mais il y a aussi la patience. Quand c'est l'attente et la patience qui produit la persévérance. Quoi, pas que Dieu nous connaît, il nous connaît très bien. Il est notre Père. Non seulement il sait de quoi nous avons besoin, mais il sait comment nous donner ce que nous lui demandons. Ça va toujours? Bien. Je vais vous donner encore une autre clé. L'autre clé arrive, c'est quand Dieu nous dit de venir, obéissance requise, de rester là, soumission à ce qu'il a dit, l'attente et la patience. Il peut amener les choses plus loin, nous faisons des promesses, je te donnerai. Mais le verset 15 nous donne une ouverture, ô combien importante. Lisez le verset 15 avec moi, s'il vous plaît. Moïse monta sur la montagne et... Ah, et la nuée couvrit la montagne. Alléluia. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Gloire à Dieu. Et la nuée couvra la montagne. Voulez-vous continuer avec moi la lecture? Verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel... appela. Il appela Moïse. Où? Du milieu de la nuée. Bon, alors, récapitulons. Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. C'est toujours d'accord. Bien. Deuxièmement, Dieu lui dit, reste là. Troisièmement, promesse, je te donnerai. Et c'est à ce moment-là, parce qu'il a obéi, parce qu'il est entré dans le sillon de la patience que Dieu veut découler de ce qu'il lui a dit, reste là. Dieu ne lui a pas dit combien de temps, mais reste là. Dieu dit, je te donnerai la promesse. Et c'est à ce moment-là que la nuée vient couvrir la montagne. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous rappelez quand Jésus, pas quand Jésus, quand Dieu a sorti son peuple d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des miracles de terreur, pour glorifier son nom en obligeant le Pharaon à libérer son peuple. Une fois qu'ils ont traversé la mer Rouge, que s'est-il passé après? La nuit, il y avait une colonne de nuée. Non, de feu. Une colonne de feu qui se manifestait. Et le jour, la colonne de feu se transformait en une nuée qui suivait le peuple de Dieu. Eh bien, d'avez-vous, cette nuée et ce feu étaient simplement une anticipation de l'action du Saint-Esprit, la présence de Dieu symbolisée par le feu et la nuée. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, on n'a pas besoin ni de voir le feu, ni de voir la nuée, mais lorsqu'on se soumet à ce que Dieu a dit, comme nous sommes entrés ce matin dans la prière en montant sur la montagne symboliquement, alors dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit ne peut qu'entrer en action. Alléluia! Le Saint-Esprit entre en action puisque nous sommes montés sur la montagne, puisque nous avons obéi en restant là, et puisque désormais les promesses, nous les attendons, alors le Saint-Esprit entre en action. Et puis que fait le Saint-Esprit? Il nous fortifie dans l'attente. Il nous donne véritablement à comprendre qu'il ne peut arriver autre chose que ce que Dieu nous a dit. Pourquoi? Il prend de ce qui est à Jésus et il le met dans nos cœurs. Cela veut dire que la présence du Saint-Esprit et son action nous garantit obligatoirement de l'échec, nous garantit de l'erreur. Et quand ça me garantit de l'erreur, ça me donne de l'assurance. Ça me procure des certitudes. De telle manière que je ne m'agite pas, je ne regarde pas à droite et à gauche, je ne m'inquiète pas. Je sais que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Monte vers moi sur la montagne. Reste là. Je te donnerai. Et parce qu'il en est ainsi, le Saint-Esprit a rempli la montagne. Oh, que Dieu te remplisse ce matin de son esprit, mon frère, ma sœur. Il remplisse ton cœur de sa présence. Afin que dans ce temps particulier que tu as volontairement mis à part pour venir chercher sa face, tu repartes soutenu, tu repartes fortifié, tu repartes encouragé, tu repartes relevé. Alléluia. Et qu'ainsi tu puisses le bénir de tout ton cœur. Je te donnerai une promesse. Il t'inclut dans la patience et que Dieu soit béni pour ce qu'il a fait dans ce contexte-là, puisque plus tard Dieu va se manifester. Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, voici ce que Dieu va faire. Verset 16, la suite du verset 16, la fin du verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. 6 jours. Et le septième jour, lisez. L'Éternel appela. Quand Dieu appelle quelqu'un, cela veut dire qu'il sait qui vous êtes. Et il sait comment agir pour que ce qu'il vous dit, vous le receviez. Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Et la Bible nous dit, verset 18, verset 17, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il ne fallait pas être pressé, hein? Mais si Dieu a dit « reste là », c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Et il va donner aussi la capacité à Moïse bien de supporter le temps de l'attente, c'est-à-dire 40 jours et 40 nuits. Et puis, frères et sœurs en Christ, pour aller plus loin, après être monté sur la montagne, il fallait monter sur la montagne, on l'a lu. Après, il fallait rester là, donc demeurer sur la montagne. Eh bien, à partir de ce moment-là, il y a un troisième temps. Après être monté sur la montagne, il fallait faire ce que Jésus a fait dans Marc 9:9. Revenons à l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 9. Puis, nous reviendrons dans l'Exode. Alors, Marc 9:9. Que Dieu soit béni. Hallelujah. Même verset 8, Marc 9, 8. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Ça, c'est ce qui suit le récit de la multiplication des pains, où c'était dans la multiplication des pains. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, donc ils étaient montés sur la montagne. Sur la montagne, ils sont vus, mais à un moment donné, il faut descendre. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Matthieu 8, 1. Alors, cheminons dans les évangiles maintenant. Vous voir un peu ce qui concerne Jésus, la montagne et l'attitude qu'il a eue dans les temps où il a été en action selon ce que Dieu a permis. Donc j'ai dit Matthieu 8, verset 1er. Donc ce que nous lisons ici, c'est la suite de ce que nous avons lu dans Matthieu 5, verset 1er. Donc Matthieu 5, verset 1er, nous avons vu que Jésus, voyant la foule, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la montagne, n'est-ce pas? Il s'est assis et il a enseigné ses disciples. Mais là, nous voyons, il a donné toute une série d'enseignements qui parlent de Matthieu 5 et qui continue, et puis on arrive à Matthieu 8, 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, donc il a bien fallu qu'il descende de la montagne, n'est-ce pas? S'il y a un temps pour monter, il y a aussi un temps pour descendre. Comme il y a un temps pour rester, bien, mais allons plus loin. Et aussitôt après qu'il descende de la montagne, que se passe-t-il? Une grande foule le suivit. Verset 2. Et voici un lépreux. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Mais je comprends très bien Quand vous êtes monté sur la montagne dans la présence de Dieu, et que vous venez de vivre une expérience particulière, alléluia, après être resté, après avoir expérimenté la patience qui découle suite à une promesse que vous avez reçue, mais quand vous descendez de la montagne, le Seigneur vous montre qu'il y a encore des gens qui souffrent. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il y a des besoins où Dieu permettra que vous soyez utile, utile et utilisé. N'est-ce pas? Mais en descendant de la montagne, aussitôt, un lépreux arrive. Frères et sœurs en Christ, cela nous place rapidement sur le terrain autant du témoignage que des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Nous ne pourrons jamais pratiquer les bonnes œuvres si nous ne sommes pas d'abord dans la présence de Dieu. Si nous n'avons pas écouté Dieu, nous n'avons pas compris son œuvre et son amour à notre égard, pour que nous soyons miséricordieux à l'égard des autres. Aussitôt, Jésus a dit, je le veux, sois pur. Pourtant, dans ce temps-là, être lépreux, ce n'était pas rien. Vous étiez mis au banc de la société. Vous étiez obligé de porter un vêtement particulier dû à votre rang. Vous ne vous mélangiez pas avec la population. Certains étaient obligés de porter une petite clochette pour signaler leur approche afin que les gens s'écartent d'eux parce qu'ils étaient contagieux. Mais aussi, toi, ils sont venus se prosterner devant Jésus. Jésus ne lui a pas dit, tu es contagieux, pourquoi tu n'es pas dans la léproserie? Pourquoi? Jésus sortait de la transfiguration sur la montagne. Comme toi, tu es entré dans le royaume de Dieu et que tu y demeures. Et que dans ce royaume de Dieu, tu prends un temps particulier pour aller chercher la face du Père, comme ce matin par la prière. Alors, dès lors que tu seras sorti de la présence de Dieu, tu vas reprendre tes activités dans le monde, mais dans le monde, il y a des âmes qui souffrent. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, le prophète dit, les enfants demandent du pain, mais personne ne leur en donne. N'avons-nous pas reçu Jésus le pain de vie? N'avons-nous pas reçu Jésus le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde? Et nous garderions ce pain pour nous-mêmes? Non. Celui qui nous a donné du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse voudrait que nous soyons au rang de ceux qui partagent de manière miséricordieuse avec ceux qui ont soif, ceux qui ont faim. Mais pour cela, encore faut-il que je sorte de la présence de Dieu. Jésus, après être resté sous la montagne, il est descendu. Et aussitôt après ce récit, ailleurs, en descendant sous la montagne, la Bible nous dit qu'il y avait un papa qui avait un fils qui était tourmenté par un démon, qui des fois le jetait dans l'eau, qui des fois le jetait dans le feu pour tuer l'enfant. Et puis les disciples vont dire, eh bien, nous avons demandé à le papa va dire, nous avons demandé à tes disciples du secours, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Alors Jésus va prendre les choses en main. Frères et sœurs, Christ, quand les autres ne peuvent pas, Jésus manifeste la puissance de Dieu et il peut toujours nous secourir. Amen. Et que s'est-il passé? Le papa, il a crié à Jésus, il a dit, viens notre secours. Et quand Jésus lui a parlé, il a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Jésus ne lui a pas fait des sermons, Jésus ne lui a pas fait de remontrances. Il a pris les choses en main et l'enfant a été délivré. Oh, que Dieu nous donne ce matin de comprendre, frères et sœurs en Christ, qu'il y a des situations. Luc 9, verset 37. Luc 9, 37. On va nous montrer encore, bien aimé, une autre approche de ce que le Père, notre Père, attend de nous encore ce matin. Alléluia, que Dieu soit béni. Luc 9, verset 37. Le lendemain, c'est un peu le récit de ce que je viens de résumer avec vous. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, donc, de qui s'agit-il ce « il » Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme. Mais j'attends que vous réagissiez. Donc, il y a une grande foule. Mais c'est du milieu de cette grande foule, un homme. Cela veut dire que dans la foule, il y a toujours des besoins autant particuliers que spécifiques. Un homme. S'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir. Vous avez dit qu'une fois que l'esprit était passé, avait fait son travail, l'enfant était en lambeaux. Et ce papa qui était concerné, il voyait avec douleur, il voyait avec souffrance, mais il voyait aussi avec son incapacité une situation à laquelle il était confronté et qui était vraiment sous de douleur, de déchirement. Mais c'est quand j'ai crié à tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Alors n'allez pas dire que c'est parce que les disciples n'étaient pas montés sur la montagne avec Jésus qu'ils n'ont pas pu. Hein. Là, c'est quelque chose qui mérite qu'on le lit simplement, mais que ça nous garde de toute spéculation. Que personne commence à pronostiquer, c'est parce que les disciples n'étaient pas montés avec Jésus sur la montagne, etc. Non, ils n'ont pas pu. Point. Peut-être que vous penserez qu'ils n'étaient pas assez spirituels, ils n'étaient pas assez sanctifiés, ils n'étaient pas assez consacrés. Arrêtons de spéculer. Ils n'ont pas pu. Point. C'est tout. Oui, parce que nous sommes champions pour toujours essayer de savoir le pourquoi du comment. Oh, la parole de Dieu me dit simplement, ils n'ont pas pu. Alors, ce que je lis me suffit. Et vous? Bien, mais c'est ça. C'est ça, le respect de la parole de Dieu, la soumission. Ils n'ont pas pu. Si Dieu voulait qu'on sache pourquoi, il nous l'aurait dit. Et s'il n'a pas dit, alors pourquoi moi j'avais dit ce que Dieu n'a pas dit? Je n'ai même pas le droit de penser ce qu'il n'a pas pensé. Ils n'ont pas pu, point. Je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, c'est comme ça quand je vis les choses de Dieu. Ils n'ont pas pu. Quelquefois, comme dit maman me disait des fois, il faut manger tout et pas tout dire. Voilà, alors, merci maman. Ils n'ont pas pu. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Point. C'est ça, hein? Bien. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Ah. Qu'ils n'ont pas pu, je le constate. Que Jésus leur dise « race incrédule et perverse », Jésus dit « ce qu'il veut, il est le maître ». Et s'il le dit, c'est pourquoi il le dit. Mais moi, je ne peux pas dire comme Jésus. Je lis ce que Jésus a dit, mais je ne dirai pas comme Jésus parce que je ne suis pas juge. Non seulement je ne suis pas juge, mais c'est Jésus même qui m'a dit de ne pas juger. Alors je lis ce que Jésus a fait, mais je ne dis pas comme Jésus a dit de. Parce que je ne suis pas à la place de Jésus, je ne suis pas non plus à leur place. Vous comprenez mes bien-aimés? Ça veut dire que dans ce cadre-là, il faut que nous soyons sobres. Amène ici ton fils. Verset 42, comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Pourquoi cela? Parce que le démon dans l'enfant se retrouver en présence de... Ah! Là, je constate que ce que le père avait dit arrivant à l'enfant, eh bien là, c'est un vécu. Mais cela se vit dans la présence de Jésus. Alors, si ça se vit dans la présence de Jésus, vous comprendrez bien qu'il va se passer quelque chose. Le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Alléluia. Voilà ce que le maître fait. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, en profitant de l'occasion pour leur donner un enseignement, pour vous, écoutez bien ceci. Et nous, nous écoutons ceci, ce que dit Jésus. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, car elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Que Dieu soit. Ailleurs, Jésus va leur expliquer que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc une leçon. Dans la circonstance, il y a toujours une leçon à tirer. Et quand Jésus nous donne la leçon, eh bien, quand nous jeûnons et que nous prions, nous ne savons pas que dans les lieux célestes, le Seigneur consigne les futures victoires qui vont découler des positions que nous avons prises dans le jeûne. Et gloire à Dieu, mes bien-aimés, de ce qu'il a mis en nous ce matin, ses bonnes dispositions. Alors nous sommes montés sur la montagne, amen, dans la prière. Nous sommes restés sur la montagne, dans la présence de Dieu. Les promesses, nous croyons que Dieu va se plaire maintenant à œuvrer pour que ce que nous lui avons demandé, ce que nous attendons de lui, parce que nous avons pris cette position, nous soit donné de sa part, mais dans le temps qu'il a résolu. Reste là. Ça veut dire que Dieu nous met dans le rapport avec le temps pour nous donner aussi à avoir la patience. Et puis, après être monté sur la montagne, après être resté sur la montagne, il faut descendre de la montagne parce qu'il y a encore, non pas du pain sur la planche, mais des bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Que Dieu soit béni, mes bien-aimés. Alléluia. Bon, je remercie le Seigneur parce que, comme je lui ai dit, hein, Seigneur, qu'est-ce que je veux partager avec tes enfants? Et voici ce que le Maître a donné pour nous ce matin. Bénissons-le et rendons-lui grâce. Je vais maintenant prier Dieu au nom de Jésus, le remercier. Pour